Bonjour à tous. Selon toute vraisemblance, les prédicateurs et les enseignants ne sont pas auto-immunisés contre le virus actuel, puisque je suis un peu malade. J'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Hein. Mais voilà. Je vous propose simplement de prier avant d'ouvrir la parole et d'écouter ce que la Bible veut nous enseigner encore ce matin. Oui Seigneur, merci pour ce culte, merci pour l'esprit, ton esprit qui habite en nous Seigneur et qui nous permet de vivre ce culte ensemble, en communauté Seigneur. Et nous voulons maintenant ouvrir ta parole et être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Et moi le premier, je vais être à l'écoute de ce que tu veux me dire Seigneur, pour que tu puisses encore parler dans nos vies, pour que tu puisses encore les transformer, pour que tu puisses encore faire ton œuvre en chacun d'entre nous. Amen. Alors, dans le dernier classement des personnalités préférées des Français, datant d'août 2016, on retrouve, est-ce que vous saurez les trouver ? On retrouve Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, celui-ci, non, moi je ne me suis pas trompé, Simone Veil, Michel Sim et Jean Reno. À l'inverse, parce qu'il y a toujours un inverse forcément, dans le classement des personnalités les moins aimées de France, on retrouve Dieudonné, un ancien président Nicolas Sarkozy, une ancienne femme de président Valérie Trier-Wehler, Éric Zemmour et un autre ancien, enfin non, actuel président, pardon, mais bientôt ancien, François Hollande. Donc les politiques n'ont pas forcément bonne presse, encore une fois, dans notre pays. Le constat qu'on peut faire, en tout cas, c'est qu'il y a des gens qu'on aime, en tout cas que la population aime, et des gens qu'on n'aime pas, ou en tout cas que la population n'aime pas. Et il y a aussi des personnes qui ne laissent personne indifférent. Soit on est pour elles, soit on est contre elles, et souvent vraiment dans des proportions assez extrêmes. Jésus faisait sans aucun doute partie de cette troisième catégorie de personnes. Tout au long de son ministère sur Terre, il a suscité à la fois l'adhésion et l'opposition. Une adhésion très forte pour certains et une opposition extrême pour l'autre, à tel point que certains ont voulu le tuer. Ils sont arrivés à leur fin sur la croix. Ce matin, nous abordons notre cinquième prédication sur notre série sur l'évangile de Marc, qu'on a débuté depuis septembre, il me semble. Et on va voir à tour quatre groupes de personnes. D'abord une foule, ensuite les apôtres, ensuite des scribes, et enfin la famille de Jésus. Quatre groupes de personnes qui ont été soit pour Jésus, soit contre Jésus. Et à travers ces textes, je crois que la Bible nous appelle vraiment à nous positionner nous-mêmes vis-à-vis de Jésus. Est-ce que je suis pour ou contre Jésus ? Et aussi à le manifester de manière très pratique dans notre vie, comme on va le voir. On commence ? Je vous propose de prendre vos Bibles donc dans Marc 3, là où on était resté avec Rolly, au verset 7, Marc 3, verset 7, pour notre premier texte jusqu'au verset 12. Vous pouvez le lire là ou dans vos Bibles. Marc 3, verset 7 à 12. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Premier texte. Dans la première partie de l'évangile de Marc, que nous avons déjà couvert ces dernières semaines, Jésus a multiplié les guérisons, il a multiplié les miracles, les délivrances. Chapitre 1, versets 23-26, il a délivré un démoniaque. Il a guéri la fièvre de la belle-mère de Pierre, chapitre 1, versets 30-31. Il a guéri tous les malades et livré tous les démoniaques de Capernaum, chapitre 1, versets 32-33. Il a chassé les démons à travers toute la Galilée, chapitre 1, verset 39. Il a guéri un lépreux, chapitre 1, verset 40-42. Il a guéri un paralytique, chapitre 2, verset 11-12. Et enfin, la guérie, la main paralysée d'un homme, chapitre 3, verset 5. Jésus a multiplié les miracles et les guérisons. Imaginez-vous une telle multitude de miracles de guérison à une époque où il n'y a pas d'hôpital ou d'hôpitaux, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. On n'a jamais rien vu de pareil. Et l'information se répand comme une traînée de poudre, forcément. Et on n'a pas besoin à ce moment-là ni de télé, ni d'Internet, ni de quoi que ce soit d'autre pour faire transparaître cette information. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. C'est le plus grand buzz de l'histoire. Il y a quelqu'un en Galilée qui guérit toutes les maladies, qui guérit tout le monde et qui guérit gratuitement. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné qu'on vient de partout pour voir ce phénomène, de partout. Comme on peut le voir sur cette carte, pour vous mieux vous situer, on vient donc d'abord de Galilée, la région au nord, de Judée, plus au sud, avec Jérusalem. On vient même de l'Idumée, en dessous de la Judée. Donc l'Idumée, c'est là où habitaient les descendants d'Ésaü, les Édomites, à l'époque. Et aussi, plus au nord, de la Phénicie, de Tyr et Sidon. Donc les gens accourent de partout pour voir Jésus. Et pas simplement des Juifs, mais même des païens des pays limitrophes, comme l'Idumée et la Phénicie, viennent jusqu'à Jésus pour être guéris. Faire face à une telle foule n'est pas sans danger pour Jésus. Tout le monde veut le toucher, forcément. Un peu comme une star aujourd'hui, qui a besoin de garde du corps tout autour pour le protéger. Sauf que Jésus n'avait pas forcément ses gardes du corps à ce moment-là. Pourquoi une telle frénésie, une telle précipitation pour absolument toucher Jésus? Est-ce que les gens pensaient que le pouvoir de Jésus serait que temporaire? Est-ce que les gens pensaient que Jésus ne prendrait pas le temps pour s'occuper d'eux? On ne sait pas, mais en tout cas, tout le monde accourt, tout le monde veut le toucher. Et donc Jésus est obligé de mettre des choses en place pour éviter de se retrouver écrasé par la foule. Donc il décide de monter dans une barque pour éviter justement d'être écrasé. Mais il monte aussi cette barque pour une autre raison, je pense. Il voulait aussi permettre à la foule d'entendre son message. Parce que Jésus n'était pas venu d'abord pour faire des miracles et pour guérir. La première mission de Jésus était d'apporter un message, le message de la bonne nouvelle, le message de l'évangile, le message de la repentance. Et donc Jésus se met sur cette barque pour que tout le monde puisse entendre son message et pas simplement pour être étouffé, entre guillemets, par les demandes de guérison. Dans la foule, on remarque aussi des démoniaques qui affirment de manière la plus explicite qu'il soit qui est vraiment ce nouveau phénomène. Tu es le Fils de Dieu. Pour une fois, ils disent la vérité. Ce n'est pas courant, mais ils disent la vérité. Pourtant, Jésus ne veut pas en entendre parler, ne veut pas que les démoniaques en parlent. Il l'avait déjà fait auparavant en Marc 1, verset 34, avec un autre démoniaque dans la même situation. Pourquoi Jésus ne souhaite pas que les démoniaques disent qu'il est le Fils de Dieu? Alors que c'est la réalité. Deux raisons principales ont été envisagées par les commentateurs. D'une part, Jésus se soumettait au plan de Dieu à ce moment-là, qui voulait une révélation progressive de son identité, de sa mission. Ce n'était pas le bon moment encore de révéler qui était vraiment Jésus, qu'il était le Fils de Dieu. Et d'autre part, on pense aussi que Jésus préférait que ses enseignements, ses actes, rendent témoignage de qui il était vraiment, plutôt que des paroles de démons. Pourquoi? Parce que cela risquait de l'associer avec Satan, ce qui s'est malheureusement passé par la suite, comme on va le voir dans le texte, où Jésus a été associé par Satan, par les scribes. Même si l'opinion publique va se retourner contre lui à la fin de sa vie, au début de son ministère, la foule est majoritairement pour Jésus. Elle est pour Jésus, celui qui guérit leurs blessures, celui qui les délivre des démons, celui qui leur prêche la bonne nouvelle. On poursuit au verset 13. Plus tard, Jésus monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il désigna. Si je vous demandais les 12 apôtres, vous les trouveriez comme ça? Ce n'est pas forcément simple, hein. Il y en a qui sont un peu plus moins connus que d'autres. Hein. On va y venir. Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, celui-ci tout le monde le connaît. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel donna le nom de Boanergès, ce qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Au début de l'évangile de Marc, de nouveau, Jésus a appelé ses premiers disciples à le suivre, comme Pierre, André, Jacques et Jean, au chapitre 1, versets 16 à 20. Plus tard, il appelle Matthieu, au chapitre 2, verset 14. Il appelle les disciples à le suivre. Maintenant, il choisit 12 hommes. 12 hommes parmi ses disciples pour devenir apôtres. Apôtres, ce qui signifie envoyé, messager ou encore ambassadeur. On peut remarquer deux aspects importants sur le choix de Jésus, sur l'appel de Jésus. D'abord, c'est Jésus qui les choisit et pas le contraire. C'est Jésus qui choisit ses apôtres. Il leur rappellera d'ailleurs à la fin de son ministère, en Jean 15, verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » C'est Jésus qui a choisi ses apôtres. Deuxième chose importante, Jésus choisit précisément 12 hommes. Pourquoi 12? Ce n'est pas anodin. Jésus choisit 12 apôtres à l'image des 12 tribus d'Israël pour devenir le fondement, le noyau d'une nouvelle communauté à venir, l'Église. En s'engageant à devenir apôtre, ces 12 hommes sont appelés à deux choses en particulier. Au verset 14, il nous est dit, ils sont appelés à rester constamment aux côtés de Jésus. Ils ont dû tout abandonner pour rester constamment aux côtés de Jésus. Les apôtres devaient toujours être avec Jésus. Jésus voulait une proximité intense avec eux. Jésus a choisi de former ses disciples, non seulement en les enseignant, mais en leur démontrant un exemple de vie pratique dans l'intimité d'un groupe. Deuxième chose, ces hommes sont aussi appelés à annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons, verset 15. Les apôtres doivent poursuivre la mission de Jésus en annonçant la bonne nouvelle et en chassant les démons comme preuve de la véracité de leur message. Les apôtres sont là pour poursuivre le ministère entamé par Jésus. On remarque donc qu'il fallait d'abord une période de formation privée pour les 12 à proximité de Jésus pour ensuite être les messagers de Jésus au monde. Et je crois que rien n'a changé, c'est un principe fondamental. Nous avons besoin tous d'avoir cette proximité avec Jésus pour ensuite être des messagers à travers le monde. S'il n'y a pas cette proximité avec Jésus, notre message sera édulcoré. Nous avons besoin, quand nous n'avons pas de message à donner autour de nous, c'est que nous n'avons pas de proximité avec Jésus. Il y a bien des années, quand j'étais jeune converti, Dieu m'a mis à cœur de prendre du temps avec lui, seul à seul, pour étudier la parole. Je ne faisais pas ça avec un objectif précis, mais je pense qu'aujourd'hui, si je suis ancien, si je suis prédicateur, c'est que Dieu a conduit les choses quand j'étais plus jeune et que j'ai pris du temps pour cela. Et Dieu regarde à ce que nous faisons seul à seul avec lui, au temps que nous prenons seul à seul avec lui, et nous bénit pour ensuite avoir un message à porter à son église ou en dehors de l'église, bien sûr. Mais si je n'ai pas de proximité avec Jésus, je n'ai pas de message à donner. Ce n'est pas possible. Et c'est le principe fondamental que Jésus nous enseigne à travers ce qu'il demande aux apôtres, rester constamment aux côtés de Jésus. Nous retrouvons dans ce passage aussi une des quatre listes des 12 apôtres du Nouveau Testament. Il y en a quatre. Et ces apôtres sont toujours à peu près rangés, classés dans le même ordre. Les spécialistes distinguent trois groupes de quatre apôtres à chaque fois. Dans le premier groupe, toujours le même, il figure toujours les quatre mêmes noms. C'est deux paires de frères, Jean, André, Jacques, Pierre. Enfin, c'est Jean et Jacques, frères, Pierre et André, deux frères, tous des pêcheurs de métier, tous qui forment le cercle le plus intime de Jésus, bien souvent. Le second groupe comprend des apôtres qui interviennent régulièrement dans l'évangile, mais moins que ceux du premier groupe, comme Philippe, Barthélemy, Matthieu et Thomas. Et le dernier groupe, c'est le groupe des apôtres les moins connus, mis à part le dernier. Jacques, fils d'Alphée, ou Jacques le mineur. Je ne sais pas si vous saviez, il y a deux Jacques dans les apôtres de Jésus. Thaddée, qu'on appelle aussi Jude, dans certaines traductions, enfin à certains autres moments. Simon, le zélote. Et enfin, Judas, qui trahira Jésus. Une revue protestante a imaginé qu'avant de recruter ses apôtres, Jésus-Christ s'était adressé à un cabinet de recrutement pour lui soumettre leurs 12 candidatures. Voilà le retour du cabinet, imaginaire bien sûr. Cher monsieur Jésus, merci de nous avoir confié le curriculum vitae des 12 hommes que vous avez choisis pour leur confier des postes de responsabilité dans notre nouvelle organisation. À présent, tous ont subi une série complète de nos tests. Les résultats ont été traités par ordinateur et pour chacun, nous avons en outre réalisé un entretien personnalisé avec notre psychologue et consultant en aptitude. Si vous êtes en plein entretien en recherche d'embauche, je vais peut-être vous faire cauchemarder, je suis désolé. Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, qu'ils n'ont guère de formation et peu d'aptitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences. Simon-Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sautes d'humeur. André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les deux frères Jacques et Jean, fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourrait que freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu, quant à lui, figure sur la liste noire de la commission du Grand Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Simon a une lourde tendance à la radicalisation, alors que Philippe a atteint un score élevé sur l'échelle maniaco-dépressive. Enfin, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée font preuve d'une bien trop grande timidité pour pouvoir prétendre à une telle responsabilité. Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable, imaginatif, il a le contact facile, un sens développé des affaires, il ne manque pas de relations avec des personnalités haut placées. Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariote. Comme votre administrateur et bras droit, il est très motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. C'est Jésus qui a choisi ces 12 hommes. 12 hommes que peut-être nous n'aurions pas choisis, qu'aucun cabinet de recrutement n'aurait peut-être choisi, mais c'est Jésus qui les a choisis. Et parmi eux, il a choisi Judas pour que le plan de rédemption s'accomplisse. Jésus a choisi ces 12 hommes, c'est lui qui les a choisis. Mais ces hommes ont aussi démontré qu'ils étaient pour Jésus, parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, d'accepter ce choix de Jésus, d'abandonner tout pour vivre cette proximité avec Jésus. On saute le verset 20, on y reviendra pour aller jusqu'au verset 22. On va retrouver les religieux, les scribes. Les spécialistes de la loi, ou les scribes, qui étaient venus de Jérusalem, disaient « Il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen d'une parabole. Deux paraboles, pardon. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, son royaume est divisé, il ne peut plus subsister. C'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. » Il y a tant et tant de personnes, une foule innombrable qui suit Jésus, que forcément cela intrigue en haut lieu, à Jérusalem. Les religieux se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe en Galilée? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc ils envoient une délégation de scribes, des scribes, des spécialistes de la loi, des experts dans la loi et dans son application. Leur but, donner un avis théologique sur ce que fait Jésus en Galilée. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Galilée? Et leur avis débouche sur une accusation très grave à l'encontre de Jésus. Il est tout simplement sous l'influence de Belzébul pour eux, de Satan. C'est par le pouvoir de Satan qu'ils réalisent de tels miracles. Ce qu'ils disent au verset 22. Comme ils ne peuvent pas contester les guérisons, ils ne peuvent pas contester les miracles de Jésus, puisqu'ils sont réels, on ne peut pas les contester. Alors les scribes veulent le discréditer aux yeux du peuple et salir sa réputation en remettant en cause la source de son pouvoir. Ils ne peuvent pas remettre en question le pouvoir de Jésus. Donc leur but, c'est de remettre en question la source du pouvoir de Jésus. Et en affirmant cela, ils font tout simplement de Jésus un démon. Face à une telle accusation, Jésus ne se laisse pas faire. Dans un premier temps, il va démontrer que leur accusation ne tient pas la route, à travers trois images parlantes. Par les deux premières, celle du pays en guerre civile et de la famille divisée, qu'on voit au verset 24 et 25, Jésus démontre que Satan ne peut pas s'attaquer à Satan. Satan ne peut pas chasser Satan, car ce serait contre son propre intérêt. S'attaquer à soi-même n'est jamais constructif, c'est toujours destructeur. Si un pays ou une famille est divisé dans ses objectifs, il ou elle ne peut pas survivre. Et la même chose s'applique à Satan. S'il lutte contre lui-même, son pouvoir ne peut que diminuer et pas croître. Par la dernière image, la troisième, celle de la personne qui pénètre dans la maison d'un homme fort, au verset 27, Jésus montre qu'il est venu, au contraire, pour briser le pouvoir de Satan. Il n'est pas venu pour aider Satan, mais pour briser son pouvoir, libérer les hommes et les femmes de son emprise. Les miracles, les délivrances qu'il opère sont là pour démontrer que Jésus est plus fort que l'homme fort, que Jésus est plus fort que Satan, que sa mission est d'affronter et de vaincre Satan en délivrant tous ceux qu'il garde en esclavage et non de coopérer avec lui. Satan ne peut pas chasser Satan et Jésus est venu briser le pouvoir de Satan. Après avoir démontré l'absurdité de la conclusion des scribes, Jésus poursuit en les condamnant fermement, en les avertissant solennellement. Jésus affirme ici, de façon péremptoire, que le blasphème contre le Saint-Esprit, au verset 29, est impardonnable. Ces mots de Jésus peuvent être troublants, parce que cela signifie que la grâce de Dieu ne peut pas tout couvrir. Pourtant, le message de l'Évangile est axé sur la grâce, centré sur la grâce. La Bible affirme à plusieurs reprises que la puissance du pardon divin, tout est pardonnable, sauf une chose, le blasphème contre le Saint-Esprit. De quoi s'agit-il exactement? Le verset 30 est un verset clé pour bien comprendre de quoi il s'agit. Il est dit, Jésus parla ainsi donc aux scribes parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Ces scribes ont blasphémé contre le Saint-Esprit et sont donc impardonnables, car alors qu'ils ne pouvaient que constater la réalité des miracles opérés par Jésus, les délivrances opérées par Christ, le fait que Christ était vraiment là pour chasser Satan, pour vaincre Satan, alors qu'ils ne pouvaient que constater cela, ils ont délibérément fait le choix, en pleine connaissance de cause, de dire de Jésus qu'il était un démon. Et c'est ça le péché qui est impardonnable. C'est face à une réalité tangible, à une manifestation claire de la puissance de Dieu, d'invoquer le fait que ça viendrait de Satan. Et ça, c'est le blasphème contre Saint-Esprit. Et ça, c'est impardonnable. Pourquoi? Parce que la Bible affirme avec force que si Dieu pardonne tous ceux qui se repentent et croient en lui, Dieu ne peut pas pardonner ceux qui ne se repentent pas. On est d'accord? Et celui qui blasphème ou celle qui blasphème contre le Saint-Esprit, dans ce cas-là les scribes, ne se repentent jamais. Ils ne se sont pas repentis, ces scribes. Au contraire, leur haine farouche contre Jésus est allée un maximum jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de Christ. Et à aucun moment, ces hommes n'ont demandé pardon. À aucun moment, ces hommes n'ont eu à l'esprit de se repentir. Le problème de ces hommes, c'est qu'ils connaissaient la vérité. Ils ne pouvaient pas, la vérité est là devant eux, ils ne pouvaient que la constater. Jésus opérait des miracles par la puissance de Dieu, mais ils la rejettent. Imaginez-vous quelqu'un qui a un virus mortel. Il peut être pris en charge par un très bon docteur dans un très bon hôpital et en plus, c'est remboursé par la sécurité sociale. Mais, curieusement, il refuse de prendre le traitement qu'on veut lui administrer car il a peur des effets secondaires. Il sait qu'il est un bon docteur, qu'il est dans un bon hôpital et qu'en plus, c'est gratuit. Mais il veut un autre traitement qui n'existe pas et refuse de prendre celui qu'on lui propose. Question ? Est-ce que cet homme va guérir? Non. Ben non. Non. Et c'est la situation de ces scribes. Jésus a apporté un message, le message de la repentance. Un message clair. Et toutes les guérisons, tous les miracles qu'il faisait venait solidifier ce message, montrer, démontrer qu'il était le Fils de Dieu. Les scribes n'ont pas voulu de ce message. Ils voulaient autre chose. Et ils ne voulaient pas se repentir par rapport à cela. Donc ils ne pouvaient pas être pardonnés. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est la situation de celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu lui présente le traitement pour le guérir, mais il le refuse systématiquement et se prive du seul moyen d'être sauvé. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le rejet de Dieu, un rejet volontaire. Volontaire. Il ne s'agit pas d'une erreur, d'une méprise, mais d'un rejet volontaire de Dieu. On peut douter de la nature de Christ. Il m'est arrivé de douter de Dieu. Désolé, hein, j'espère que je ne casse pas les... Il m'est arrivé de douter de Dieu. Mais c'est autre chose d'étouffer volontairement sa conscience et de rejeter volontairement Dieu. Ce n'est pas la même chose de douter de Dieu dans des moments difficiles et de rejeter Dieu volontairement. Et c'est un rejet aussi persistant. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais plutôt d'une opposition persistante envers Dieu. À l'image de l'opposition de ces scribes, tout au long du ministère de Jésus, ils ont été opposés de manière persistante à Christ. Une dernière chose importante. Dans tous les cas, cela ne peut en aucun cas concerner un chrétien. Il a pu arriver que certains chrétiens aient peur de l'avoir commis, ce blasphème contre le Saint-Esprit, et donc de ne plus pouvoir être pardonné par Dieu. Peut-être parmi nous ce matin, l'un ou l'autre, ont eu ce sentiment à une époque, ou ont peut-être en lutte contre cela aujourd'hui, avec cette même crainte. C'est une méthode perverse de Satan qui cherche à nous suggérer ce genre de pensée pour nous enlever la paix que nous devons avoir dans le salut offert par Christ. Nous sommes sauvés. Rien ni personne ne peut le faire revenir en arrière, ces choses-là. Le simple fait d'avoir peur d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit montre qu'on ne l'a pas commis. Parce que celui qui commet ce blasphème, c'est quelqu'un qui rejette de manière persistante, volontaire, Jésus-Christ. Les scribes qui ont commis ce péché étaient impitoyables, inflexibles dans l'opposition à Christ. Ils n'avaient aucun scrupule à accuser Christ avec mauvaise foi et n'ont même eu aucune hésitation à comploter contre lui pour le tuer. Ils n'éprouvaient ni remords, ni désir de repentance. Et en parlant comme ils l'ont fait de Jésus, ils se sont dressés contre lui de la manière la plus inflexible qui soit. Ils étaient contre Jésus. Dernier groupe, sa famille. On revient au verset 20 du chapitre 3. Jésus alla à la maison et de nouveau la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, mais il est devenu fou. Et plus loin, verset 31, la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Au verset 20, on voit d'abord que la foule a encore suivi Jésus. Avec ses apôtres, ils sont presque débordés devant tellement de demandes. Ils n'ont même plus le temps de manger. Et c'est à ce moment-là qu'intervient pour la première fois la famille de Jésus, avant l'intervention des scribes. Et le jugement de sa famille sur Jésus n'est pas beaucoup mieux que celui des religieux. Il l'accuse pas d'être un démon, mais il pense qu'il a perdu la raison, qu'il est devenu fou. La famille de Jésus ne pouvait plus pas s'expliquer le mode de vie de Jésus, si peu conventionnel. Jusque-là, on peut imaginer que Jésus avait été un bon charpentier à Nazareth, comme son père avant lui. Mais là, ils ne comprennent plus rien. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête à Jésus? Sa famille a vécu avec Jésus pendant 30 ans. Probablement les événements autour de sa naissance, l'annonce de l'ange, la visite des bergers, l'adoration des mages, tout le contexte de Noël, étaient encore présents dans leur mémoire, mais peut-être avec moins de vivacité. 30 ans plus tard, cela devait être une bizarrerie difficile à comprendre pour les frères et sœurs de Jésus. Après tout, Jésus était charpentier, menait une vie normale, entre guillemets, sans doute, sans péché, mais une vie de charpentier. Et puis voilà que Jésus quitte son travail, s'éloigne de sa famille, commence à prêcher aux foules, Et voilà qu'il fait des miracles. Et voilà qu'il entre en conflit avec les religieux, qui veulent même le tuer. Quel est le réflexe de sa famille ? Il faut protéger Jésus. Il faut le sauver, on va le sauver, nous. Il faut le sortir de ce piège. Et ils viennent donc en force pour le tirer d'affaire, pour le ramener avec eux. Ils veulent lui faire entendre raison. Cette situation ne peut pas durer dans leur esprit. Ils viennent donc jusqu'à Jésus pour qu'il arrête. C'est tout ce qu'il fait là avec la population, c'est pas normal. Faut qu'il arrête, faut qu'il revienne. Faut que tu reviennes dans ton établi de charpentier. Tu reprennes ta vie, normal. Et ils font sûrement cela en pensant que c'est juste, que c'est bon pour lui. Mais de toute évidence, ils se trompent. Et de toute évidence, ils n'arrivent pas à leur fin. Ils reviennent ensuite une seconde fois à la charge, au verset 31. Mais à cause de la foule, là, ils ne peuvent même pas accéder à Jésus. Il y a tellement de monde que même sa famille n'arrive même pas à aller jusqu'à Jésus. Donc ils envoient un messager pour lui faire dire que sa mère, ses frères, ses sœurs sont là. On remarque que son père n'est pas là. Beaucoup pensent que Joseph est décédé peu avant le début du ministère public de Jésus. Mais en tout cas, en disant « sa mère, frère et sœurs sont là », il y a toute la famille qui est là, hein. Il y a du monde. On est venu en force pour te chercher. Et quand le messager arrive jusqu'à Jésus, Jésus pose une question. Une question étrange. Il demande « qui sont ma mère et mes frères ?» au verset 33. Alors imaginez-vous qu'un de vos enfants se lève un matin et vient vous voir et vous dise « tiens papa, c'est qui mon père au fait ?» Ah ben, choquant, non ? Moi, je prendrais mal, quand même, un minimum. C'est une question choquante que Jésus adresse. Qui sont ma mère et mes frères ? C'est choquant. C'est d'autant plus choquant dans cette société-là, à ce moment-là, une société où la famille est une valeur fondamentale. Bien sûr, la famille est encore une valeur fondamentale dans une société, mais sûrement moins qu'elle pouvait l'être à cette époque-là. C'est une question des plus choquantes que Jésus dit devant tous. Par cette question, Jésus ne remet pas en question les liens familiaux, bien sûr. Il sait très bien qui est sa mère et ses frères, selon la chair. Mais il affirme qu'il existe un autre lien, au moins aussi fort que le lien charnel de la famille. Face à sa famille qui est contre lui à ce moment-là, Jésus met en avant un autre lien familial plus important à ses yeux, celui de la famille spirituelle. En appelant ses disciples « mère et frère » au verset 34, Jésus affirme la suprématie des liens spirituels sur les liens familiaux. Pardon. Le lien spirituel est plus important aux yeux de Jésus que le lien familial. En les présentant comme sa famille, il invite ses disciples par la même occasion à se considérer comme des frères et sœurs. Et Jésus affirme que les liens spirituels sont plus profonds et passent avant les liens familiaux. D'une autre manière, en Luc 14, verset 26, il dit « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. » Les liens spirituels sont plus importants que les liens familiaux aux yeux de Christ. Que retenir de ce passage pour nos vies aujourd'hui ? Je vous propose 3 pistes de réflexion. Pour ou contre Jésus d'abord. Nous avons un choix à faire. La foule, dans sa grande majorité, au début de son ministère en tout cas, et ses apôtres ont été pour Jésus. Alors qu'au contraire, les religieux et sa famille au début de son ministère ont été contre lui pour des raisons différentes. Lorsque Jésus a fait éruption dans l'histoire de l'humanité, il a autant suscité l'approbation que l'opposition. Pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus exige de la part de tous ceux qui l'écoutent de choisir. Il y a un choix à faire. Il n'y a pas de neutre devant Jésus. On est soit pour, soit contre lui. On ne peut pas être au milieu. Ça n'existe pas avec Jésus. On est soit pour, soit contre lui. Et nous avons tous un choix décisif à faire vis-à-vis de Jésus. Si vous êtes ce matin dans cette église, c'est que beaucoup ont fait ce choix décisif de dire pour, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas encore fait. Mais vous êtes conscient que vous avez un choix à faire. Sinon, vous ne seriez pas là. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas venir ici et rester indifférent. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore fait ce choix, c'est que vous êtes conscient qu'il y a un choix à faire et qu'il faut le faire, soit pour ou soit contre Jésus. Ce passage nous montre en tout cas clairement qu'on ne fait pas partie de ceux qui sont pour Jésus sur la base de notre connaissance de la Bible. On ne fait pas partie de ceux qui sont pour Jésus sur la base de notre connaissance de la Bible. Ceux qui connaissaient le mieux les Écritures, les scribes, les religieux, ont été contre Jésus. Ce n'est tout simplement pas le fait de bien connaître sa Bible qui fait que je suis pour Jésus. On n'est pas non plus pour Jésus sur la base de notre héritage familial. Ceux qui le connaissaient le mieux, ceux qui connaissaient le mieux Jésus, sa propre famille, n'a pas compris ce qui se passait et a été contre Jésus d'une certaine manière au début. Ce n'est tout simplement par le fait d'avoir des parents, des frères ou sœurs chrétiens, chrétiennes, qui fait que je suis chrétien, que je suis pour Jésus. La distinction entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre Jésus ne se trouve pas donc dans la somme des connaissances bibliques, ne se trouve pas dans la force de l'héritage chrétien d'une famille, mais autre part. Comment savoir dans quel camp je suis ? Jésus nous laisse un test très facile. Au verset 35, il nous montre deux options, deux choses, deux aspects qui montrent si nous sommes vraiment pour lui. Celui qui est pour Jésus, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Celui qui est pour Jésus, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu. Au verset 35. Pour Jésus, tu es pour Jésus et la volonté de Dieu alors. Jésus nous dit que celui qui est pour lui, c'est celui qui a fait ou qui fait la volonté de Dieu. C'est une déclaration décisive, ce que signifie être pour Christ, ce que signifie prendre un réel engagement envers Christ. Si je suis pour Jésus, alors je ferai sa volonté dans ma vie. C'est le signe le plus clair de mon choix, le fait de faire la volonté de Dieu dans ma vie. Voilà ce qu'écrit Francis Chan dans son livre « Dieu oublié » à propos de la volonté de Dieu. Bon nombre d'entre nous doivent laisser tomber l'idée de connaître la volonté de Dieu. Dieu s'intéresse davantage à voir comment nous réagissons aujourd'hui, à l'instant même, lorsque son esprit nous conduit, que de savoir ce que nous comptons faire l'année prochaine. En fait, les décisions que nous prendrons l'année prochaine seront profondément affectées par notre degré de soumission à l'esprit maintenant, dans nos décisions d'aujourd'hui. Il est facile de servir de l'expression « la volonté de Dieu pour ma vie » comme d'une excuse à l'inaction, voire à la désobéissance. Réfléchir à la volonté de Dieu pour votre avenir est bien moins exigeant que de lui demander ce qu'il veut que vous fassiez ces 10 prochaines minutes. Le suivre un de ces jours comprend moins de risques que de le suivre aujourd'hui. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire des plans sur la comète pour dans 10 ans. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à lui aujourd'hui, maintenant, dans tous les détails de ma vie, de nos vies. Ce n'est pas le temps, l'argent, les forces que j'aurai dans 10 ans qui intéressent Dieu. C'est le temps, l'argent, les forces que j'ai aujourd'hui qui intéressent Dieu pour que je puisse réaliser sa volonté, son œuvre dans ma vie. Pour Jésus et la famille de Dieu, alors. Jésus nous dit aussi que celui qui est pour lui est un frère, une sœur ou une mère. Pour Jésus. Le fait de rejoindre la famille de Dieu est le second aspect qui démontre notre approbation pour Jésus. Et John a introduit ce culte sur cette notion de famille de Dieu. Il a lu ce texte que je vais reprendre en introduction dans Romains 8. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. C'est par cet Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et donc, co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Francis Chan, encore lui dans le même livre, écrit il y a quelque temps de cela, un ancien membre de gang est venu dans notre église. Il était tatoué de la tête aux pieds et d'un abord rude. Mais il était curieux et voulait voir à quoi ressemble une église. Il avait une vraie relation avec Jésus et il semblait assez bien s'impliquer dans l'assemblée. Quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il ne venait plus à l'église. quand je lui demandais pourquoi, il m'expliquait. Je m'étais fait une mauvaise idée de ce à quoi l'Église devait ressembler. Quand j'ai rejoint l'Assemblée, je pensais que ce serait comme entrer dans un gang. Vous voyez, dans les gangs, on n'est pas simplement gentil l'un envers l'autre, une fois par semaine. On était une famille. En l'écoutant, j'étais mort de honte. Je savais que ses attentes correspondaient à ce que l'Église était censée être. J'étais attristé à l'idée qu'un gang dépeigne mieux l'engagement, la loyauté et la famille que ne le fait l'Église locale. Si être pour Jésus, cela signifie rejoindre une famille, alors une question s'impose naturellement à nous. Est-ce que notre Église est un gang ? Est-ce que notre Église est une véritable famille ? Est-ce que notre Église est une véritable famille ? Nous avons chanté « Oui, nous faisons tous partie de la famille de Dieu ». Est-ce que notre Église est une véritable famille ? Une question essentielle. Dans la consultation que nous avons faite en septembre, dont nous vous donnons les résultats dans les prochaines semaines, avant de vous donner des directions à la prochaine AG de l'Église, un aspect est revenu, je pense, dans presque tous les sondages, c'est l'aspect du nombre. On est de plus en plus nombreux. Comment on va faire ? Comment ça va se passer ? Quelles solutions envisager ? Comment vivre cela ? Il me semble que la meilleure piste pour envisager ce qu'il conviendra de faire devant le nombre que nous sommes, et c'est une bénédiction, c'est de s'appuyer sur le fait renouvelé d'être une famille. Parce que si nous sommes une famille, nous prendrons les bonnes décisions en famille pour cela. Et cela nous implique tous, quel que soit le nombre, et le nombre grandit. Mais est-ce que face au nombre qui grandit, est-ce que je me pose ces questions-là ? Comment est-ce que j'accueille les nouveaux venus ? Comment nous accueillons les nouveaux venus ? Avec qui est-ce que je discute ? Toujours avec les mêmes personnes ? Toujours avec les mêmes générations de personnes ? Toujours avec ceux qui ont les mêmes hobbies que moi ? Est-ce que j'exerce l'hospitalité ? Est-ce qu'un membre de l'Église est déjà venu chez moi à la maison ? Un membre de ma famille de l'Église ? Est-ce que je me préoccupe des besoins, soucis, joies des membres de ma famille spirituelle ? Est-ce que j'en fais des sujets de prière ? Ce sont des questions très simples, très basiques. Mais en répondant honnêtement à ces questions, on a la réponse pour savoir si nous sommes dans une famille, la famille de Dieu. Est-ce que je l'accueille ? Est-ce que je rends l'hospitalité ? Est-ce que j'ai du souci pour les membres de ma famille à l'ECE ? Je vais laisser John conclure, on va juste avoir un temps de silence, mais que nous ayons vraiment cette pensée à l'esprit, pour ou contre Jésus. J'espère que vous avez tous fait ce choix pour Jésus. Si je suis pour Jésus, que Dieu nous parle aussi par rapport à la volonté de Dieu qui s'impose davantage en nous, que Dieu nous parle aussi par rapport à la famille de Dieu, que cette idée puisse s'imposer davantage à nous aussi. Qu'on puisse avoir un temps de silence, et puis je laisserai John conclure. Amen.